De ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent sur Internet. Ce soir, nous sommes vendredi du mois de mai. Au mois de mai, pareil qu'on fait ce qui nous plaît. Si on fait vraiment ce qui nous plaît, on va attraper un rhume. Le réchauffement, la planète, c'est ça. Ah, gloire à Dieu, c'est bien, on ne va pas se plaindre. Vous savez, c'est ce que je disais aujourd'hui, quand on a j'ai eu si chaud là-bas en Afrique avec ces... C'était terrible, j'ai dit plus jamais je me plaindrai d'avoir froid aux pieds. Bon, je vais essayer de tenir 3 semaines, on verra pour la suite. Frères et sœurs, je réfléchissais parce que hier j'ai vécu quelque chose de dramatique avec la Michou. Et je réfléchissais à ce que Jésus dit et par association d'idées, j'en suis arrivé à cette conclusion. Je crois que rien ne sera plus surprenant quand on quittera notre enveloppe celle terrestre pour arriver... Face à notre Dieu, rien ne sera plus surprenant que de se rendre compte que finalement, il nous est familier. Nous connaissons notre Père. Hier, Michou et moi, nous sommes allés rendre visite à Raphaël et Violette. Raphaël est à l'hôpital depuis près de 2 mois maintenant. Vous savez qu'il a fait un AVC, il est paralysé du côté droite, gauche, t'as raison chérie, gauche, parce que je l'avais en face de moi. Donc Et Violette est toute seule dans sa caravane. Quand on est arrivé à 15h, elle était encore au lit. Et quand elle nous a vus rentrer dans la caravane, elle s'est mise à pleurer. Et bon, elle nous a dit, je tiens à peine debout, je souffre de partout. Et Michou et moi, on lui a parlé, et puis que j'avais fait un livre... avec des photos d'elle, de Raphaël, et puis de son frère Paillon, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Et on lui a donné le livre, alors elle s'est assise dans le lit, elle a commencé à regarder, et puis elle pleurait encore de plus belle en voyant les photos. « Oh, vous êtes gentils, mais qu'est-ce que vous êtes gentils avec nous ?» et tout. Et puis on a prié ensemble, et finalement elle a dit « Ah ben, je me sens fortifiée dans mes os, je vais aller avec vous. » Parce que ça faisait 3 jours qu'elle n'avait pas été voir Raphaël, parce qu'elle était fatiguée, elle était... éreintée, c'était certainement aussi moralement qu'elle était éreintée. Donc elle a mis un manteau par-dessus son pyjama. Moi j'ai dit je vais sortir pendant qu'elle s'habille. Non, elle a dit non, je mets un manteau par-dessus mon pyjama. Alors elle a mis un manteau par-dessus son pyjama et puis on est allé voir Raphaël à l'hôpital. Quand on est rentré dans la chambre, il dormait. Alors elle s'est approchée de lui, elle lui a fait un petit bisou, il s'est réveillé. Vous savez, avec cet AVC qu'il a fait là maintenant, il a même un peu de peine à parler. C'est terrible d'avoir de la peine à parler parce qu'on dit quelque chose, la personne demande de répéter parce qu'on ne comprend pas bien, alors ça le fatigue et puis il ne peut pas, il peut plus marcher, il ne peut pas bouger son bras gauche, il avait besoin d'être relevé dans son lit, alors il a appelé l'infirmière, elle ne venait pas, nous on a essayé de le relever, mais on n'a pas réussi, on n'avait pas le coup de main de Mélodie, on ne savait pas faire, j'avais peur de lui faire mal. Et puis on a parlé, et je lui ai parlé de ma mission en Afrique. Je lui ai dit, tu sais, ça fait maintenant bientôt 45 ans que tu m'as conduit à Jésus et je n'ai pas changé ma méthode, je fais comme tu m'as appris et ça marche toujours, Jésus est toujours là. Et il y a eu des centaines de conversions, il y a eu des dizaines de personnes, des dizaines et des dizaines de personnes guéries par Jésus. Et alors que j'étais en train de parler de tout ça, son visage s'est illuminé, il était tout radieux. Vous savez, vous connaissez le sourire de Raphaël, ça faisait plaisir à voir après toutes ces larmes. Et notre frère Francis, il nous avait dit, juste avant qu'on parte, il ne pouvait pas venir parce qu'il allait lécher sa maman, voir sa maman, il nous avait dit qu'aucun pasteur de la mission de Zigane n'avait été lui apporter la Sainte Seine. Aucun. Et on avait été attristés par cela, alors on avait apporté tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse lui donner à lui et à son épouse la Sainte Seine. Et je repensais à ce que Jimmy Meyer, le président de la mission de Zigane m'a dit il y a quelques jours en se moquant de moi, en me disant que de toute façon je suis tout seul avec mes quelques fidèles, alors qu'eux ils sont des milliers, des dizaines et des centaines de milliers, qu'ils ont 10 000 pasteurs dans leur organisation. Et franchement, ils se moquaient de moi, c'était pas très très agréable, pas très très gentil. Et là, où se trouve l'hôpital, où est Raphaël, je ne crois pas mentir en disant qu'il y a près de 30 pasteurs dans le coin. Hein. C'est bien ça, même plus que ça. Pas un qui est venu lui apporter la Sainte Seine. Pas un. Alors qu'il est le fondateur de l'Église qui est là-bas. Vous voyez un petit peu. Frères et sœurs, Jésus est avec nous. Et il est dit que c'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres que les gens reconnaîtront que Jésus est avec nous et que nous sommes avec Jésus. La communion avec Jésus, avec des milliers d'autres personnes, parce que Jésus, il vit dans les gens. Et si on n'a pas de bonne communion avec les gens, c'est avec Jésus qu'on n'a pas une bonne communion. Vous voyez, Michou et moi, donc, on lui a dit, ben voilà, on a apporté pour prendre le pain et le vin. On n'a pas dit, on n'a pas fait de reproche, mais dans nos cœurs, on pensait quand même que ce n'est pas tout à fait normal que personne n'ait fait ce geste pour eux. Et on a pris la Sainte Cène, nous quatre, là, c'était un moment précieux. Raphaël a prié pour le pain, j'ai prié pour le vin. Et je regardais le visage de Raphaël alors qu'il était en train de prier et je pensais aux paroles de Jésus, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que le Père était en lui et dans ce corps d'homme qui était là en Israël et qui marchait, qui parlait, qui faisait toutes ces choses. Et il avait dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et je pensais, eh bien, celui qui a vu Raphaël a vu Jésus, parce que Jésus vit dans cet homme. Un homme fatigué, un homme qui a tellement travaillé pour Dieu, qui est fatigué et qui est vieux maintenant. Et eh bien, je le regardais, je disais, ben voilà. Voilà le visage de Dieu aujourd'hui, pas seulement dans Raphaël, mais dans tous nos frères et sœurs. Mais hier, je pensais plus précisément à mon frère Raphaël, celui qui m'a emmené à Jésus. C'est lui qui m'a emmené à Jésus. Le visage de cet homme, il m'est familier. Et je disais, ben, quand j'arriverai devant Dieu, eh bien, le visage de Dieu me sera familier. Le visage de Dieu ressemble, ça sera le visage de Michou, ce sera le visage de Raphaël, ce sera le visage de mes frères et sœurs, le visage d'Osborne. Ce sera tous ces visages que je reconnaîtrai dans le Père. Jésus-Christ, notre Sauveur, vit dans nos frères et sœurs. Et quand nous voyons nos frères et sœurs, c'est Jésus que nous voyons. Et quand nous prenons le pain et le vin, c'est avec eux que nous communions, c'est vrai, c'est-à-dire avec eux, avec qui? Ben avec nos frères et sœurs et Jésus qui vit en eux. Voilà avec qui nous communions. En prenant le pain et le vin, l'apôtre nous dit qu'il faut qu'on discerne le Père. Eh bien, il faut discerner le corps de Christ, discerner. C'est vrai, il vit dans nos frères et dans nos sœurs. Discerner le corps de Christ. Alors, c'est vrai que la Sainte Cène, c'est une ordonnance de Jésus. Et quand on dit ordonnance, on dit ordre, on dit devoir. Certains enfants de Dieu perdent de vue qu'elle n'est que le symbole de la communion sainte que nous avons avec Jésus et avec nos frères et sœurs. Ils oublient des fois que nous avons avec le Père, la communion, mais aussi avec nos frères et sœurs, en qui vit Jésus. Le baptême, c'est aussi un symbole, c'est le signe visible de notre alliance. La scène, c'est le rappel de l'ordonnance, c'est le rappel, c'est l'ordonnance, c'est le rappel de notre baptême, la Sainte Cène. Cette alliance qu'on avait faite de marcher avec Dieu, de marcher avec lui et lui en nous, et d'être en communion avec lui. Mais au-delà de ces signes visibles, mes frères et sœurs, de ces symboles, de ces ordonnances, il y a la réalité de la communion. La réalité, c'est dans le vécu. Vous voyez, premièrement, on est entré par la porte. Ça aussi, c'est une image. Il n'y avait pas de porte ce 1er juin 1968. Mais il y avait Raphaël en qui Dieu vit et qui prêchait la parole de Dieu. Et j'ai compris qu'il fallait que je passe par Jésus, qu'il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Donc, j'ai passé par cette porte, par Jésus. Je me suis converti. Ça veut dire j'ai renoncé au monde, à ces choses mauvaises qu'il y a pour recevoir Jésus-Christ. Et puis, j'ai été baptisé correctement, comme vous l'avez tous été, selon l'ordre établi dans l'Église, selon Actes 2, 38. Et puis, troisièmement, nous nous souvenons que pour aimer, eh bien, il faut au moins être deux. Il faut au moins être deux pour pouvoir manifester de l'amour. Et Jésus, il nous a clairement dit quelles sont les vertus qui doivent guider nos relations, notre communion avec les autres. Il a dit que c'était la persuasion par l'esprit, la longanimité, la gentillesse, la douceur, l'amour sincère. Alors, de nos jours, ici en France, il y a même une loi qui interdit de donner la fessée aux enfants ou de les gifler. Les sévices physiques, c'est quelque chose, on peut porter plainte contre quelqu'un qui nous frappe, et c'est une bonne chose. L'être humain devrait pouvoir quand même maintenant se faire comprendre, être persuasif sans avoir besoin d'avoir recours à la force physique, de frapper. en frappant l'autre. On peut quand même parler, être persuasif, surtout nous, si nous avons l'Esprit de Dieu, communiquer, parler de façon à être compris et qu'il n'y ait pas de chicane, au point des fois même qu'on voit des choses tristes, même dans les églises, des gens qui se tapent dessus. Mais il y a autre chose, et il faut le dire, même dans notre communauté, les frères et sœurs, il faut être humble, nous avons beaucoup de chemin à faire avant d'éliminer, bon, les sévices physiques, il n'y en a pas, mais les sévices émotionnels. Les torts causés par les sévices émotionnels nous restent en mémoire, ça reste gravé, c'est très difficile à se débarrasser de ça. Les sévices émotionnels blessent profondément notre personnalité et ça sème même de la haine dans les cœurs. On n'est pas appelé à ça. Ça détruit notre estime de soi et puis ça peut nous remplir de crainte. Vous savez, quand il est écrit dans la lettre aux Éphésiens, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » C'est parce que les chrétiens vivaient ensemble, alors il y avait des problèmes. Mais on peut avoir par le Saint-Esprit la possibilité de persuader l'autre de notre bonne foi, de notre sincérité, de notre véritable amour, sans avoir besoin de le blesser, sans avoir besoin de dire des choses qui créent des émotions mauvaises, qui sont des sévices émotionnels. Nous convertir, c'est pas suffisant. Être baptisé, c'est pas suffisant. Renouveler notre alliance en prenant le pain et le vin, ça n'est pas suffisant. Le lavage des pieds, ce n'est pas suffisant. Nous, ça, c'est des symboles. Nous devons également mener une vie céleste. Nous devons mener une vie céleste. Nous devons apprendre à dire des choses gentilles, normales. On apprend à nos enfants à dire bonjour, merci, s'il vous plaît. Pourquoi ? Parce que tous ces mots-là, ils confirment les sentiments qui sont en nous. Un mot gentil, c'est aussi une communion, une communication. Le symbole de la communion n'a pas de valeur si la réalité de la communion, de la communication douce est inexistante. Parce que c'est bien une communication douce qui nous est demandée quand on lit le psaume 133a, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. On ne peut pas commettre des actes et poser des paroles blessantes et puis qui créent des sévices émotionnels en prétendant être doux. Raphaël et Violette, ils étaient tout bouleversés par ce geste que Michou et moi avons fait en apportant la coupe et puis le pain. C'est pas que les 10 000 pasteurs gitans n'aiment pas ces deux vieux, c'est pas du tout ça. C'est tout simplement qu'ils ont oublié que la véritable religion, la religion de Jésus-Christ, c'est la religion de la gentillesse, c'est la religion de la prévenance, c'est la religion de la bonté. Jésus a dit « Je suis doux et humble de cœur ». La véritable religion, celle de Jésus-Christ, n'est pas une religion de devoir, mais d'amour sincère qui se démontre. Alors on l'a ou on ne l'a pas. Si vous l'avez perdu, s'il s'est refroidi cet amour, allez sur vos genoux. N'attendez pas que quelqu'un réveille cet amour à votre place. C'est vous qui devez aller sur vos genoux pour arriver à ranimer la flamme de cet amour pour votre frère, pour votre sœur. Jacques, il écrivait « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. » La vraie religion qui est rétablie par Jésus-Christ maintenant se vit. Elle ne peut pas se vivre autrement que surnaturellement. Sinon, c'est un devoir. On aime par devoir. On va trouver les veuves, les orphelins, les gens à l'hôpital par devoir, parce qu'il faut. La nature humaine, mes frères et sœurs, elle est bien trop faible pour pouvoir être gentille, pour pouvoir être douce, pour pouvoir être aimante. Elle est beaucoup trop faible. Alors ce n'est que soumis à l'Esprit de Dieu que notre nature peut renoncer, déposer les armes, afin de laisser l'Esprit de Dieu se manifester au travers de nous et vivre selon l'Esprit et non pas selon la chair. Vous observez la nature du Père. Quand on observe la nature du Père, quand il parle, les mots qu'il utilise, écoutez bien, le jour du baptême de Jésus, Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je me complais. Ces écritures, l'écriture des mots que le Père a prononcés là, rendent témoignage de lui. Jésus un jour a dit aux pharisiens, vous sondez les écritures parce que vous croyez trouver en elles la vie éternelle, mais les écritures rendent témoignage de moi. La parole écrite, ce que Dieu dit, ça rend témoignage de lui, c'est-à-dire de qui il est, de son amour, là pour son fils, mais d'autres endroits on voit son amour pour nous. Eh bien de même, mes frères et sœurs, nos paroles rendent témoignage de qui nous sommes, de l'amour que nous avons pour Dieu et de l'amour que nous avons pour nos frères et sœurs. Alors, pourquoi ne pas vous imprégner des mots qui sont dans la Bible? J'ai lu quelque part qu'un enfant qui sait lire peut lire une page de la Bible en 3 minutes. Vous essayerez pour voir si c'est vrai. Vous allez chronométrer les enfants pour voir si c'est vrai qu'on peut lire une page de la Bible en tant qu'enfant en 3 minutes. Bien, la Bible que j'ai là, j'ai regardé cet après-midi, elle contient 947 pages. Ça signifie que vous pouvez lire la Bible en entier en 2841 minutes. Vous allez me dire, c'est terrible. Ah, pas vraiment. Vous divisez ça par 60, et vous avez le nombre d'heures. Vous pouvez lire cette Bible en entier en 47h30, même pas 2 jours. Même pas 2, à condition de la lire sans arrêter, évidemment. Mais ça n'est pas tellement recommandé de ne pas manger, de ne pas dormir. Alors, je pense, mes frères et sœurs, qu'il est possible de lire la Bible entière en 1 mois. Qu'en pensez-vous? Juste pour s'imprégner des mots qu'utilise le Père dans ce que nous appelons la parole de Dieu. Nous aimons Dieu, nous croyons en Dieu. Mais est-ce que nous imprégnons des mots qu'il utilise? Vous savez, si vous lisez la Bible, les Saintes Écritures, et si vous apprenez à faire de vos délices, si vous apprenez à faire des Écritures vos délices, eh bien vous serez comme le psalmiste, vous pourrez vous exclamer « Et tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. » Psaume 119, 103. Les paroles de Dieu, elles sont pleines d'amour, d'affection pour ceux qui l'aiment. Nos paroles et nos actes reflètent l'amour que nous avons, ou que nous n'avons pas, ou que nous n'avons plus, ou que nous avons laissé se refroidir. Vous voyez, mes frères et sœurs, la vraie religion, celle de Jésus-Christ, celle que Jésus-Christ rétablit dans son Église, est une religion de connaissance, c'est vrai, et de pratique de cette connaissance. On ne peut pas pratiquer quelque chose qu'on ne connaît pas. Voilà pourquoi j'ai dit connaissance d'abord. C'est une religion de connaissance et de pratique de cette connaissance. Les dernières paroles que Jésus a dites sur la montagne, après son immense sermon, il a dit « Celui qui mettra en pratique ce que je dis sera semblable à un homme qui construit sa maison sur le roc. » C'est une maison indestructible. Alors voilà ce que c'est la véritable Église de Jésus-Christ. Elle est composée de personnes qui vivent en accord avec les principes célestes contenus dans les Écritures, et ils apportent du réconfort aux gens qui souffrent. Ces gens-là de l'Église procurent de la joie à ceux qui sont découragés, déprimés, et puis elle apporte de la paix à ceux qui les entourent, même s'ils vont bien. Allez, ça ne coûte pas cher de remettre une couche de paix et de joie. Amen. Les Écritures sont le guide sûr pour ceux qui cherchent la vérité. La vie vraie, c'est ça la vérité. La vie vraie selon le Créateur de nos vies. Alors, renonçons à la volonté de notre nature humaine qui cherche toujours à expliquer pourquoi on fait la tronche, pourquoi on a des paroles blessantes, pourquoi? Mais j'ai quand même raison, c'est quand même insupportable. Alors il fallait bien que j'y fasse comprendre la nature humaine. Renonçons à la volonté de notre nature humaine et faisons la volonté de Jésus-Christ notre Seigneur. Et lorsque nous verrons notre Père face à face, eh bien on sera très surpris de se rendre compte que finalement, il nous était familier. Amen. Jésus, je te prie que mes frères et sœurs qui sont ici, qui regardent la télé ou qui écoutent sur Internet, prennent conscience qu'ils voient ta face quand ils regardent un frère, quand ils regardent une sœur. Merci Seigneur Jésus de nous aider, chacun d'entre nous, de m'aider à toujours réaliser que je suis dans ta présence et plus encore dans ta présence quand je suis dans la présence d'un frère et d'une sœur. Merci Jésus de m'aider à me souvenir de cela, même si le frère et la sœur sont imparfaits. Merci Seigneur de m'aider et de nous aider tous à marcher de mieux en mieux pour glorifier ton nom, pour procurer du plaisir tout autour de nous, de la joie, de la consolation, et glorifier ainsi ton nom devant tout le monde des esprits. Au nom de Jésus, telle est ma prière, mon Dieu. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.